Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour à tous. Merci de nous suivre comme chaque semaine dans ce podcast On s'aime fort. Un petit rappel, On s'aime fort, le livre est disponible évidemment dans toutes les librairies, dans les grands réseaux et puis bien sûr en vente sur monjardinbio.com. En tout cas, merci infiniment pour tous vos messages, ça nous fait très plaisir. Top générique. On s'aime fort. Le podcast du jardin. Bonjour à toutes, bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver avec Eric pour une heure à peu près de conseils jardin, forcément j'allais dire de conseils beauté, oui mais aussi beauté du potager. Lui, il est tout beau, il est pas si âgé que ça, c'est Eric, salut Eric.
Salut.
Ça va?
Le pas assez, pas si âgé que ça, ça c'est encore, ça c'est une vue de l'esprit.
Oui bah écoute, ouais. on fait ce qu'on peut. Bon, comment on va?
Et comme Moumout écrase l'esprit. Non, ça, c'était un vieux truc des années. C'est pas bon.
Ok.
Ouais, ça, sinon, va, ça va. Non, une très grosse chaleur.
Oui.
Ça pousse plus que ça pousse.
C'est ça.
Impressionnant. L'herbe pousse terriblement.
Oui.
La tondeuse est sortie.
Oui.
Même la tondeuse, les tondeuses ne passent plus tellement que l'herbe est haute.
Oui.
Donc, voilà. Un réveil total, 3 semaines d'avance.
Avec voilà. Des risques de gel, notamment sur la partie est de la France.
Oui, ce dimanche, parce que les nuits sont claires.
C'est ça.
Voilà.
Donc, on va espérer que ça ne cogne pas trop.
Hein, non, parce je vois que... dans l'est, j'ai vérifié quelques abricotiers hier. Les fruits sont déjà vraiment joliment formés. Donc, voilà.
Donc, ça veut dire que les dernières gelées n'ont pas eu... On n'a pas eu la peau, puisqu'on en avait parlé, je crois, il y a 15 jours. Hein.
Oui, je dirais même, ça peut être fait une petite sélection pour qu'il y ait moins de fruits.
Pour qu'il y ait moins de fruits, oui. D'accord, mm-hmm. Donc ça veut dire que... C'est quoi, tiens, on va s'arrêter 2 secondes sur le gel, Eric. C'est quoi le signe, finalement, d'un coup de gel?
Quand le jardinier ou la jardinière sort toute nue, si elle a vraiment froid, c'est que... Non, je plaisante, mais je dirais quand vous avez le petit fruit... C'est-à-dire que vous avez la future petite pomme, enfin là, ce n'est pas le cas, hein, mais plutôt prune ou abricot. Alors des fois, on dit, tiens, on voit encore le fruit. C'est que ça n'a pas gelé. Mais en réalité, il faut prendre ce petit fruit qui est des fois très, très, très petit, et il faut le couper en deux. Et si dedans,
c'est
l'ovule
noir.
Est noir, c'est-à-dire le futur noyau est noir, ça ne marchera pas.
C'est nécrosé, ça ne marchera pas. Et quand c'est une fleur, quand tu es au stade fleur, notamment, alors les pommiers, ils débourrent, mais on n'est pas encore au stade fleur. Par contre, sur les abricotiers, sur les pêchers notamment, il y a pas mal de fleurs. Après une gelée, les fleurs en général sont noires, Eric, non?
Oui, tout à fait, voilà.
Donc si c'est encore beau, ça veut dire que ça n'a pas pris.
Y a grande
chance. Ça veut dire
que
c'est passé entre les mailles du terrain.
Voilà, mais le problème, c'est qu'entre une fleur fanée et une fleur qui a gelé, des fois, c'est compliqué.
C'est compliqué, oui.
Parce que ça va très, très vite en ce moment. Hein. Les fleurs fanent très, très rapidement. Parce que l'activité des abeilles et autres butineurs est quand même assez importante.
Oui.
Mais il faut savoir, le test, c'est de toucher gentiment les fleurs qui n'ont plus de pétales. Voilà. Et en principe, il y a le petit fruit qui est dedans fécondé. Voilà. Et si on sort une petite boule, c'est que le fruit est fécondé. On enlève les stigmates des fleurs, des pétales et des sépales. Et après, on regarde, on coupe en deux le fruit. Et si dedans, vraiment, l'ovule, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qui est noyau, si le noyau est mort, il n'y a pas de, fruit. Chez le pommier ou chez la poire, c'est un petit peu différent. Mieux vaut avoir l'ensemble des pépins du pommier ou l'ensemble des pépins de la poire pour que le fruit soit bien rond et soit, viable pour la suite.
Ouais.
Mais s'il n'y a pas tout, des fois, ça marche quand même un peu. Alors que le noyau, s'il n'y a pas l'ovule, il n'y a pas de fruit, quoi.
Alors, tu t'es moqué de moi la dernière fois parce qu'il y a des gens qui sont tout à fait enclins à allumer quelques bougies, j'allais dire, on voit des systèmes ici ou là. Alors bon, voilà. Chacun se fera sa propre opinion par rapport à ça. D'une, il faut mettre le réveil un peu tôt. De deux, c'est peut-être pas forcément la peine d'en fumer. Alors, surtout pas de paille et de bois, hein, évidemment. Hein, mais je pensais notamment à ces bougies ou à des grosses bougies pour des fois gagner juste les 2 degrés qui permettaient de passer.
Ouais.
Parce que bon, c'est des fois très frustrant. Après, si vous utilisez ça et si vous mettez le réveil très tôt pour sauver un petit peu, bien qu'on n'en vit pas, nous,
jardiniers
amateurs. Mais si vous avez des moyennes plutôt anti-gel, franchement, ça nous intéresse. aussi. Et si vous le faites, voilà, c'est parce que juste en tant que retour d'expérience. En tant que particulier, bien sûr.
En tant que particulier et professionnel, évidemment. Voilà, c'est un autre domaine et c'est normal qu'ils essayent de sauver leur situation.
On est d'accord, puisque si ce n'est pas la sécheresse, c'est le gel. Bienvenue dans le monde d'après. Mis à part ça, Eric, on va faire un tout petit tour du on va faire un tout petit tour du côté du jardin, pardon, avec un tempo très simple. On sème fort, voilà. Ça tombe bien. En vente, toujours en librairie, hein, évidemment. Et on va parler des céleris, parce que tu es fan de céleri.
Bah ouais, c'est mon petit côté rave. Mon petit côté boule, je voudrais dire.
C'est ton petit côté boule et rave, c'est ça.
C'est ça, voilà. Ça, c'est intéressant. Pourquoi d'en parler? C'est parce que il y a plein de documents qui disent que c'est facile à faire.
Oui. Moi.
Mais moi, je ne trouve pas si simple que ça, hein, surtout pour les novices, parce qu'il faut le faire en plusieurs fois. C'est, voilà, le céleri boule, c'est pas, ou céleri rave, hein. C'est vraiment pas le plus simple. Donc, c'était pour simplement préciser. Et c'est peut-être aussi pour donner envie, aux jardiniers, aux jardinières, d'aller voir leur professionnel pour acheter les céleris en mini-motte.
Voilà. Suivez mon regard. Alors, on va commencer avec le tempo au jardin, si vous le voulez bien. Et puis, bien sûr, entre le tempo et les céleris raves, il y aura vos quelques questions. On n'a pas eu beaucoup. Hein. On voit encore, c'est un petit peu mou, ça dépend des semaines, mais en tout cas, cette semaine était plutôt calme. Alors, Eric, on est en lune favorable.
Tout ce qui va être greffage, des greffages des arbres fruitiers, greffage des autres plantes, hein, tout ce qui va, qu'on va pouvoir utiliser des porte-greffes et des greffons. Ça aussi, on est en lune favorable, parce qu'il ne faut pas oublier que peut-être en Alsace, c'est un tout petit peu tôt, bien que quand on voit le temps, on pourrait l'imaginer, mais s'il y a un coup de fraîcheur après, c'est un peu embêtant, donc il faudrait plutôt attendre. Mais dans d'autres régions, ça me semble complètement le bon moment pour greffer, quoi.
Donc, rendez-vous sur notre blog, bien sûr, pour suivre ce tempo du jardin. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, Eric, par rapport à ça?
Disons que par rapport au tempo, on est vraiment semi-semi, mais alors mais pas outrance, quoi.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que souvent, là, on voit tous ces paquets de graines, on dit, tiens, on est au mois d'avril-mai, on va tout semer, quoi. Non, il faut quand même attendre.
Hein, Donc, l'idée, c'est, c'est mollo quand même sur le semis.
Ouais, c'est ça.
Que...
C'est-à-dire que... Ça peut être une première fois sur certains légumes, mais ça ne sera surtout pas la dernière ou en zone tranquille, quoi. Hein. C'est une première fois, voilà.
Une première fois, sachant que des fois, notamment sur les poivrons, on a du mal à sortir, hein. On le voit très régulièrement. Donc, il y a quand même un petit peu de patience. Surtout, on va juste rappeler le temps de germination, Eric, parce que, les novices, en général, sont assez catastrophés de voir que rien ne pousse et puis tout d'un coup, au bout de 20 jours, ça sort.
Oui, c'est ça. Disons, l'histoire des 3 semaines, c'est important, en sachant qu'en principe, chez le professionnel, en 8-10 jours, tout doit être levé. Hein.
Oui, parce qu'on est sur nappe chauffante, bien
c'est
souvent.
C'est ça, voilà.
Aussi.
Et puis souvent, voilà. Et puis, il y a aussi un savoir-faire et puis il y a aussi, une atmosphère globale qui est très chaude. Nous, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on croit qu'il fait 20-25 degrés, puis en fin de compte, il ne fait pas 25 degrés.
Oui, la terre n'est pas chaude. Rappelle-nous juste, alors, poivron, aubergine, c'est quoi? Presque 20 jours, Eric, hein, c'est ça, hein?
Oui, c'est, voilà. Presque, voilà. Donc, on peut être même surpris, des fois, sur des semis qui viennent comme ça, quoi.
Oui.
En sachant que plus il vient rapidement, plus le rythme de pousse sera certain. Par contre, quand ça a du mal à venir, ça sera incertain, vraiment, pendant un bout de temps. On est sûr de rien, quoi.
D'accord. La tomate, ça, c'est facile, une semaine.
Oui, une semaine, ça germe très facilement, hein, globalement.
Oui.
Je dirais, on peut même le faire sur du coton. On voit très vite la germination qui se fait, donc voilà. Mais par contre, bien sûr, hein, s'il fait vraiment pas... Moi, par exemple, je n'ai pas de tomate du tout parce qu'il fait trop froid chez moi.
Oui, et puis tu as tellement de gens qui t'enfilent aussi.
Ou peut-être, oui, ça doit être ça aussi. Puis bon, voilà. Mais après, tout le reste aussi, quand on va le faire en pleine terre, parce que là aussi, on a l'impression que rien ne lève. Il ne faut pas oublier que là, avec le temps qui fait, le sol qui se réchauffe, ça va aller très, très, très rapidement, quoi.
Alors, même si on n'y est pas encore, bien sûr, mais les betteraves, tout doucement, ça prend quoi? Une dizaine de jours, Eric?
Oui,
je
voilà.
Rien à l'extérieur,
de toute façon,
là,
on est toujours en dizaine de jours. Tout ce qui va être chou et compagnie, on est plutôt à l'ordre de 6-8 jours, quoi.
Ouais.
Et dès qu'on va être sur des graines un peu dures, petites, de la famille de carottes et compagnie, là, on est plutôt sur 15 jours, voire 3 semaines. Quoi.
Oui, et donc là, il faut être très patient. Ça veut aussi dire que ne désespérez pas. Et normalement, quand le semis est à peu près fait et bien fait, alors, il y a deux façons pour réussir le semis. C'est soit de lire notre livre, On s'aime fort. Tu as vu comment je l'ai placé?
Très
soit
bien.
De lire l'excellent blog tenu, entre autres, par Eric avec tous les conseils, notamment les semis en terrine. On t'avait fait un article l'année dernière sur... sur les terrines, l'aubergine. Voilà, suivez tous ces conseils. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, mais ne vous découragez pas parce qu'il y a des vrais temps.
Enfin, je dirais globalement, pour aller un peu plus loin, aujourd'hui, tous les semis, tous les conseils que vous pouvez trouver ici et là sont quand même pas mauvais, quoi, même derrière le paquet de graines. Hein.
Ouais, mais les notes sont mieux.
C'est ça.
Oh, Eric, très franchement, on lit aussi pas mal de conneries sur Internet.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais des fois, il faut plus faire confiance à ce qui est marqué derrière le paquet de graines.
Oui, c'est pas faux. C'est pas faux.
Que des fois, voilà.
Mais des fois, on a des paquets de graines, on a récupéré des semences ici là, et on ne sait pas forcément comment faire. Donc, c'est pour ça aussi que les blogs d'information ou le bouquin ou des autres bouquins, évidemment, on n'a pas la prétention de dire qu'on recueille tout le savoir jardinier. Mais en tout cas, il y a des choses à faire et aussi les conseils et l'expérience. On sait aussi que l'expérience régulièrement. Moi, je faisais les tomates à l'époque mi-février parce que mon Dieu, il fallait le faire et que tout le monde le disait. En fait, tu le fais tout début mars, ça a largement le temps, parce que sinon, si tu es obligé de chauffer ta serre...
Oui, c'est pas... Voilà. Non, après, il faut trouver le juste équilibre entre les dépenses d'énergie.
C'est ça.
Quand je dis l'énergie, c'est l'énergie électrique et compagnie, mais aussi son énergie à soi. Hein. Si on n'a pas le temps, autant d'acheter après les plants. Hein.
Voilà. On est d'accord. Après, c'est le plaisir aussi d'eux, mais c'est aussi un boulot, forcément, parce que de remettre en pot, ça demande du terreau, des pots qu'on va réutiliser, bien sûr, mais aussi une certaine logistique. Et surtout, derrière, il faut les suivre. Parce que petit pot sur petit pot, ça prend, mine de rien, beaucoup de place. Voilà. Et puis après, il y a un truc tout bête. Alors, bon, normalement, on n'a pas le droit, Eric, hein, normalement, c'est changer les graines. On est d'accord?
Tant que c'est des graines, des vieilles variétés, pourquoi pas? C'est les nouvelles variétés qui sont inscrites, que celles-ci, on devrait
pas. Mais des fois, les voisins, ça s'échange pas mal de choses.
Oui, on s'en fiche. Tant que ça reste de l'ordre non marchand, et puis... du jardinage amateur, il n'y a pas de souci.
Enfin, pardon, tu vas sur certains sites, tu vas sur Le Bon Coin, franchement, on va se dire les choses. Il y a beaucoup aussi d'horticulture amateur.
Ouais.
Moi, j'avais trouvé des poivrons une fois parce que la dame en avait fait des centaines. Et parce que spécialisé là-dessus, et c'était assez impressionnant. Ils ont très très bien, très bien fonctionné.
Oui, après, et puis
donc,
après,
juste à côté, j'ai soit des fois, pas, bon voilà. Bon,
faut des fois aller voir des fois des associations, de jardinage qui sont à côté, et qui fait que quand une fois qu'on est membre, on peut bénéficier justement des prix intéressants sur des variétés anciennes, parce que leur activité, je dirais, ils ont pu récupérer un tunnel de qualité avec des fois en partenariat avec une commune. Voilà, autant aussi d'aller voir eux, hein, mais on a aussi les bons professionnels qui sont à proximité. Hein.
On est d'accord. Eric, on referme ce chapitre consacré au tempo et puis aussi au temps de semis, au temps de lever.
Oui,
comme on dit.
Voilà. Comme dit, plus on est dans le sud, plus on peut être l'âme aventureuse sur les semis. Plus on est au nord, on a le temps, quoi. Hein.
Oui, parce que ce n'est pas la peine non plus, encore une fois, de se retrouver le coup classique qui arrive, qui m'arrive à peu près une fois tous les 2 ans, ou tous les 3 ans. Je sème les haricots tout content début avril, bim, de la flotte, du froid, et bim, des haricots qui ne viennent pas. Donc
C'est pour ça que même, par exemple, sur les courges, courgettes, c'est le plein moment, comme dit, mais c'est les premières fois quoi, aussi. Hein, les gens, ils auront le temps jusqu'à début avril pour en semer en godet, voire semer pleine terre. Hein.
Soit semer pleine terre, voire les faire effectivement fin avril pour les mettre tout de suite au plein terre. Parce qu'on va rappeler les fameux saints de glace, c'est mars, hein, on va le rappeler, c'est au mois de mai. Voilà, j'ai une connerie.
Il faut espérer qu'il y a une diminution des températures à un moment là, quoi, parce que sinon.
Que ça se calme.
Sinon, on va être déjà au mois de juin, au mois d'avril, quoi, c'est pas possible. Quoi, hein,
on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Eric, si t'es d'accord. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les questions?
Les questions, ouais.
Et ben voilà, contact@monjardinbio.com, vous nous envoyez vos questions, des photos si besoin. N'hésitez pas. Et puis Eric vous répond en direct, comme chaque semaine. On va commencer avec Laurent qui nous dit « Bonjour Brice, bonjour Eric, j'aimerais aménager un talus actuellement engazonné en y plantant des petits fruits. » Tu sens comme ça infuse, Eric, ton idée
ça,
de...
c'est bon,
hein,
ouais.
C'est fou,
ouais.
Hein. Ça, c'est ça, c'est tout toi, en y plantant des petits fruits. Donc mon jardin manque terriblement jusqu'à présent. Ce talus est exposé plein ouest. Bordé d'une terrasse sur le haut de la pente, une pente plutôt modérée, hein, et une haie de tuya sur le bas, long d'une petite dizaine de mètres pour 5 mètres de large. Il a été formé, je pense, à l'époque de la construction de la maison avec une bonne partie de la terre de remblai.
Ouais.
Sol argilo-limoneux, exposé au vent. Il nous a donné une photo où on voit, on est juste avant une belle prairie. Il est vilaine. Quel petit fruit serait adapté à cette situation? Je dis beaucoup que ces arbustes apprécient une terre léger, riche et bien drainée. tout l'inverse de mon talus et de mon sol tassé. Alors, comment m'y prendre? J'imagine ouvrir une tranchée, l'amender avant de la pailler, mais je suis preneur de vos conseils concernant les dimensions de celle-ci.
Bah, disons que là, c'était le bon réflexe, parce que je sens que l'auditeur est prêt à le faire.
oui, il y a de la motivation.
Il y a de la motivation, donc restons dans cette motivation. Oui, souvent, la terre de Ramblais, ce n'est pas forcément la meilleure terre, parce qu'on s'est dit, bon, bah, on va remonter tout ça. C'est une terre qui est hyper tassée. Alors, je ne sais pas quel âge de la maison, mais voilà, ce n'est pas forcément la meilleure des terres. Souvent, il y a une belle exposition après, souvent, pendant voilà, de nombreuses années, un sol qui est souvent très ressuyé parce qu'il est en pente. Donc, on n'est pas forcément dans une préparation de sol idéale. Donc là, l'intérêt, c'est de pouvoir justement faire des tranchées. Alors des fois, l'idéal, c'est de faire des tranchées, non pas de bas en haut, mais de droite à gauche ou de gauche à droite. Hein. Ça, ouais. C'est le mieux. Voilà. Comme s'il y avait des petites marches. Et en fin de compte, les petits fruits servent de marche. Voilà, tout simplement. Ça permet de pouvoir justement garder l'eau plus facilement. Et si on a voilà, des pluies... ça permet de garder justement l'eau dans la tranchée qui est peut-être un petit peu, dans un premier temps, imperméable, hein, qui est pas, où le passage de l'eau est pas facilement, enfin, n'est pas facile. Donc, il faut mieux de travailler comme ça, de droite-gauche ou gauche-droite, que de haut en bas. Parce que des fois, c'est plus facile de faire de haut en bas, hein, je comprends. Mais essayons de le faire comme le font, je dirais, j'aime bien des fois voir dans les prairies, des fois, quand il y a un troupeau de vaches, les animaux ont dessiné un espèce de cheminement qui est pas la vache va pas descendre tout droit, mais elle va descendre plutôt en zigzag.
En zigzag, ouais.
Voilà, et ça crée des fois des cheminements et qui font que ce cheminement va améliorer aussi la captation de l'eau. Donc c'est comme donc il faut voilà faire comme ça. Donc on peut en commencer une par une bordure le long de la terrasse, sans oublier que les petits fruits ne vont poser aucun problème si on a une dalle en béton qui permet justement d'être de la terrasse. Hein. Tout le monde a toujours peur de ça, mais les petits fruits, c'est pas des fous furieux des racines. Hein. Donc, il y en a, mais c'est pas non plus voilà, c'est pas ça qui va casser une dalle de béton. Donc, on peut le mettre le plus proche possible. Alors, attention aussi de pas trop mettre trop proche de la terrasse, parce que ça va prendre peut-être 50, 60, voire un mètre si on met des casseilles sur la terrasse. Uh-huh. Donc, il faut quand même penser à le mettre au moins à 60-70 de la terrasse pour pouvoir maintenir justement cette zone de tranquillité et éviter d'avoir des branches qui tombent dans l'assiette
des voisins.
Voilà, du petit barbecue et compagnie. Donc ça, on va, voilà, faut... Et puis après, rappelle-moi la distance de la...
Alors, c'est quand même une dizaine de mètres hein, sur 5 de large.
5 de large, ou 5 de large, on peut en mettre 3 rangs.
Ouais. Donc on peut vraiment
mettre... C'est déjà, il y en a 2, c'est déjà pas mal, hein, franchement. Sans oublier que sur cette zone, il peut y avoir très bien, par exemple, une lignée de petits fruits, une deuxième, et voire peut-être en contrebas, de mettre les fraises. Que si la butte est peut-être arrêtée par un petit muret de pierres sèches en bas, on peut mettre en bordure justement de ces pierres sèches, je dirais, tous les 30 à 50 cm un fraisier, quoi.
Donc on peut faire vraiment quelque chose de très nourricier.
Ouais, complètement. Alors on peut travailler en ligne. Moi je trouve le plus simple c'est en ligne, même si peut-être le style n'est pas forcément. Voilà, ça fait un peu culture si on a une batte de terrasse. On n'est pas dans un aménagement, je dirais, ornemental. Voilà. Si la personne ne veut pas mettre que ça, elle peut mettre ici et là des pieds seuls. Mais moi je préfère toujours mettre en touffe hein, ou en alignement parce que ça permet d'avoir. C'est la masse qui va faire que ça résiste mieux. Mais là, vraiment, le choix est vraiment porté. Si la personne peut faire, comme dit, des mini-terrasses pour planter les fruits, c'est encore mieux. Hein. C'est donc ces fameux grands escaliers. Ça permet de retenir mieux et c'est plus facile. Donc, pour ça, qu'en travaillant, on peut se permettre de faire, je dirais, quand on va travailler nos droite-gauche ou gauche-droite, je dirais vraiment une jolie tranchée, bien remplir. Et ne pas simplement remplir où il va y avoir la potée. L'idéal, ce serait de le mettre dans toute la longueur. Quoi.
Ouais. Alors, est-ce là encore la bonne saison pour implanter ces végétaux? Oui.
Oui.
Voilà. Framboisier, groseillers, mûriers, vignes, peuvent-ils tous cohabiter?
Non, parce qu'il y en a qui demandent du palissage, tout ce qui va être mûr et vigne. Voilà. Ouais. Mmh. Donc ça, attention, alors ça peut-être bordurer... de chaque côté. Alors plutôt de ne pas le planter droite-gauche, mais plutôt de haut en bas, voilà, pour ça peut bordurer une vigne d'un côté, une ronce de l'autre. Donc ça peut être sympa.
OK.
Parce que là, framboise non remontante, donc vigne, kiwai, ronce sans épines, Ogam berry, tout ça, Thai berry, demande un palissage.
Alors justement, il parlait conduite en palissage sur échalade, technique qui me semble assez simple à mettre en place
Ouais,
et
ça c'est
adaptée.
voilà, de le mettre sur un piquet, c'est bien.
Ok. Comme vous le constatez, beaucoup de questions se mélangent. En tout cas, j'espère pouvoir régaler notre famille,
Ouais.
surtout notre petite fille d'un an et demi avec tous ses fruits d'été et cet automne.
Voilà.
Merci pour
Par
tout ce que
contre,
vous faites. Oui.
ce qui est clair, c'est qu'au niveau du palissage, le fait de mettre un piquet ou un pieu assez fort, hein, bien enfoncé dans le sol, c'est bien pour les framboisiers. Voilà.
Oui.
Dès qu'on va être dans la ronce, la vigne et compagnie, il faut quand même un palissage avec fil, où les fils peuvent être remplacés par des bambous de 3 mètres. Donc on peut faire trois niveaux entre deux pieux. On peut fixer avec du fil de fer trois longueurs de bambou. Voilà, à peu près. On peut trouver des bambous à plus de 3 mètres ou le récupérer chez les gens. Et ça permet de faire un style aussi un peu précis. Ça évite de faire coteau de vigne avec des fils quand on a une terrasse. Dès qu'on va mettre du bambou, dès qu'on va mettre du bois, dès qu'on va mettre des tipis, ça fait quand même un aménagement sympa.
Mais il faut le rappeler, l'important c'est aussi de les ancrer et de bien
Ouais.
ancrer les
Ouais.
têtes. Parce que quand il y a de la prise au vent, quand il y
Oui, c'est
a un
ça.
coup de vent sur de la vigne, notamment sur de la vigne, parce qu'il y avait quand même des grosses feuilles hein, par rapport
Ah ouais, c'est ça.
à de la framboise, bah, il faut quand même que ça tienne, quoi, Eric.
Voilà, c'est ça. De toute façon, les pieux, il faut vraiment bien les enfoncer, hein.
Ouais.
C'est-à-dire que si on prend le pieu, une fois qu'on l'a enfoncé et ça bouge encore, ça ne tiendra jamais parce que le pieu va se relever. Donc il faut vraiment que quand on tient le pieu, on peut presque s'adosser dessus, quoi.
On est d'accord. Eric, PS, nous dit Laurent, Eric, dans un précédent podcast, était à court d'idées pour renouveler vos émissions et donner du peps à votre couple. Alors, à quand une version filmée d'On s'aime fort, par
Ah
exemple?
ouais.
Ben, on peut pas parce qu'on a des physiques de radio.
C'est ça.
Et c'est pour ça,
Exactement,
c'est
c'est-à-dire c'est
exactement ça.
soit on voit la cour, soit on voit.
Voilà.
Donc ouais, bon, faut dire à l'auditeur ou aux auditrices que c'est un boulot, quoi.
Non, mais c'est très. Et c'est tellement mieux parce qu'on peut s'imaginer plein de choses
Ah ouais,
en
c'est
nous
ça,
écoutant, alors que la vidéo, voilà.
on est quand même on développe quand même un fantasme très fort chez les gens.
Bon, c'est peut-être toi qui
D'ailleurs,
le
vu
dis.
les retours, une fois qu'ils nous ont vus en photo,
Oui, c'est ça.
ils ont tous dit ah ouais, quand même.
C'est exactement ça. Non, mais il y a juste un point. Il y a juste un point où on va être très, très clair là-dessus. Aujourd'hui, c'est vrai que certains podcasts se font filmer. Maintenant, je vois pas trop l'intérêt de voir deux personnes qui discutent. Devant un micro. Donc, on va laisser
Ouais,
votre imagination perdurer. Je pense que ça va être pas mal. Et puis, Laurent dit aussi, hein, autre su suggestion, pardon, un dossier sur le forçage des légumes et des fruits. Ça, là, dans le livre Rhubarbe. Pourquoi pas? À se noter, Eric.
OK.
Il y a quelques éléments hein, sur le site, si vous le voulez. Hein, je vous invite effectivement à regarder sur notre blog. On a pas mal d'informations autour de cela. Eric. On va passer à Pierre-Alain qui nous dit bonjour la Dream Team, je vous soumets trois questions. J'ai redirigé mes eaux de pluie. Alors je vais t'envoyer l'élément. Donc il a redirigé des eaux de pluie vers une ancienne fosse à purin de 3 mètres sur 2 qu'il souhaite
Ouais.
transformer en mare. Afin de l'agrandir, il a
Ouais.
creusé un rectangle supplémentaire. Le bassin en l'état n'est pas vraiment imperméable car il a probablement des fissures dans les angles et je souhaite
Ouais.
étanchifier la fosse existante. Et la partie à nu, mais chose que je ne souhaite pas, c'est passer par une bâche compte tenu des parois abruptes qui évitent, et puis aussi éviter d'utiliser un dérivé du pétrole. Mais j'ai par ailleurs une mauvaise expérience que je vous partage avec des massettes qui ont percé une bâche EPDM. Donc c'est les fameuses bâches hein, pour la mare.
Ouais, complètement.
J'arrive pas à trouver une alternative fiable pour l'étanchéité et saine pour la vie de la mare. Est-ce que vous auriez quelque chose à me conseiller?
Compliqué à part de remettre un revêtement dessus, cimenté quoi,
Ouais, bétonné quoi.
bétonné.
Faire une espèce
Quand
de
on a le
piscine.
béton, fait le béton quoi, comme
Ouais.
globalement. Ou des fois, s'il y a, enfin, il y a un point qui peut être important, c'est de calculer la perte d'eau par jour, voilà, ou au bout d'une semaine
Ouais, ou
pour
les
voir.
100 centimètres quoi, en gros.
Ouais,
Hein,
voilà.
voilà, ouais.
Voilà, on peut jouer aussi sur ce niveau et à chaque fois que ça remplit, ben, ça repermet de revenir sur une certaine hauteur. Voilà, comme
Chaque
ça
fois qu'il
peut
pleut,
être.
tu veux dire, ouais.
Ouais, quand il pleut, bon, ça peut bien sûr pas rajouter l'eau du robinet, ça c'est clair. Mais le principe, c'est de. Voilà, on peut jouer là-dessus pour savoir ben, si on perd que quelques centimètres, ça vaut le coup de rester dans cette situation-là, hein, tout simplement. Mais voilà, c'est simplement ça qui va pouvoir faire la différence. Après, bien sûr, le revêtement avec du plastique serait le plus simple. S'il y a une capacité de rebétonner l'ensemble pour mettre de l'étanchéité, voilà, mais je vois pas d'autre solution, quoi.
Bien, donc béton ou la bâche, malheureusement,
Ouais.
mais là...
Bon, après, il y a peut-être dans ce questionnement des gens qui sont peut-être beaucoup plus spécialistes
Oui,
que
n'hésitez
moi
pas à
dans ce
nous, oui,
domaine,
n'hésitez pas
ouais,
à
de
nous
donner
dire.
des idées. S'il y a eu simplement des fois, peut-être en mettant un simple enduit que je connais pas d'étanchéité qui va permettre peut-être, mais c'est toujours très compliqué, quoi. Surtout quand on récupère une fosse, voilà, on ne sait pas comment elle a été faite et compagnie, et c'est compliqué, quoi.
Mais tu nous parlais il y a quelques mois quand on avait fait un dossier sur la mare de certains sols type argileux qui retiennent plus ou
Oui, mais là,
moins.
c'est de remplir d'argile, il n'y aurait pas assez, quoi.
Oui, ok, oui, donc il faut des gros volumes quoi, c'est ça.
C'est
Ouais.
voilà, c'est quand même important, quoi.
Second point, j'ai récupéré des porte-greffes de pommiers issus d'une pomme jetée dans un massif. Je souhaite le greffer avec une variété récente, Story, mais
Ouais.
avec des porte-greffes de type franc. Au bout de combien de temps puis-je espérer avoir des fruits?
Bah, c'est ça le truc, c'est bah, les premiers fruits, ça peut être. Alors, bien sûr, déjà, il faut que le franc soit bien développé, comme dit. Avant de greffer, parce que si en principe c'est un arbre avec un tronc, hein, le but du jeu quand on prend du franc c'est pour avoir un arbre haute tige. Voilà, alors quand on dit haute tige, c'est plutôt tige, hein, ça peut être une basse tige avec où le gros tronc peut être une hauteur de 70-80 cm, mais il faut un certain temps globalement et souvent bah, faut attendre les fameuses 7 à 8 ans avant de voir les premiers fruits, quoi.
Est-ce que les plantes sont canalisables en mode verger piéton ou palissade contre un mur
Pas
ou
du tout.
vais-je me retrouver avec des arbres incontrôlables?
Alors disons que si on fait de la taille à la Versaillais, c'est-à-dire quand je dis ça, c'est voilà, en forme U, double U, tout ce qu'on peut, il faut savoir que la plupart, ils travaillent sur franc. Hein.
Donc
Donc,
franc-pied, ça veut dire sans porte-greffe. Hein.
non, si, porte-greffe, mais qui est comme dans le cas de l'auditeur, hein, une variété qui a été sélectionnée parce que il y a une certaine homogénéité au niveau de la réaction des plantes. Hein.
Oui, ok,
Et,
oui.
mais par contre, ils sont greffés sur du franc, donc sur des arbres de fort volume. Hein.
Ok, pardon, oui,
Donc,
non,
il y a une
je...
variété qui existe de franc, par exemple. Alors, chaque pays a voilà, sa variété spéciale. Le problème, c'est qu'on peut, mais il faut pas arrêter de limiter la puissance de l'arbre. C'est comme ça que souvent, on a des formes hyper, je dirais, puissantes, je veux dire, au niveau de la pousse, qui sont restreintes par les formes un peu en double U, triple U, tout ce qu'on veut là. Alors c'est un peu compliqué. Dès qu'on va utiliser du franc, on sera plutôt dans du plein vent, ce qu'on appelle, et pas du
Donc,
piéton.
mais franc-pied, Eric veut bien dire sans porte-greffe, on est d'accord.
Non, 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 non.
Franc de pied, quand tu as une vigne franc de pied
Ah
et
oui, je suis
qui
d'accord,
est...
là, l'intérêt, c'est que si, si on prend la... Là, il a bien expliqué que l'auditeur qu'il y avait une variété de pommes qu'il souhaiterait mettre, une variété,
Oui,
dirais,
oui.
commerciale. Et donc, quand il a récupéré les grains, les pommes, c'est peut-être fait d'une autre pomme. Donc, on ne sait pas.
Ok,
On ne sait pas.
ok.
Donc, parce que si on prend un franc de pied, c'est-à-dire vraiment, vraiment, c'est-à-dire qu'on va semer des golden, par exemple, je dis une variété que les gens connaissent, mais on n'est pas sûr d'avoir de la golden parce qu'il y a une obligation de fécondation croisée, c'est-à-dire qu'un golden sera fécondé surtout pas par une autre golden, et sera la fleur golden sera fécondée par peut-être de la pomme, je dirais, la pomme type reine des rainettes, ou ça va être une pomme plutôt de pommier décoratif, entre guillemets, mais surtout pas de la golden. Donc on est presque sûr de pas avoir une variété golden. Donc d'où l'intérêt sur ces porte-greffes, de regreffer, je dirais, la variété que l'on souhaite, mais par contre, le pied, les racines sont toujours de franc, c'est-à-dire quelque chose qui va être hyper puissant, quoi.
Ok, mais comme ça c'est très clair, voilà.
Voilà. Parce qu'il y a des variétés, par exemple, qu'on a quand on... Il faut savoir que sur la vigne, quand on va être sur du pied franc, il faut savoir que c'est souvent par bouturage, quoi.
Dernier point de Pierre-Alain, j'ai la possibilité de récupérer dans un centre équestre du crottin de cheval mélangé avec de la sciure de sapin.
Ouais.
Le tout est déjà bien composté. Quel peut être l'usage de ce produit?
Bah, disons que ce qu'il faut vérifier, c'est quand même l'acidité de ce mélange. ça c'est important, donc de vérifier le pH, hein, c'est-à-dire est-ce qu'on est plus près d'un compost, entre guillemets, en décomposition, parce qu'il n'est pas fini hein, quand même, de savoir si on est plutôt acide ou plutôt autour de 6, 5, 7. Voilà. Bon, parce que si on met beaucoup de résine, de résineux dedans, ben, voilà, comme déjà la décomposition est plutôt un petit peu acide, alors si on accentue l'acidité, voilà, faut savoir ce que c'est. Donc là, si on est autour de 6,5, on peut utiliser pour tout et n'importe quoi.
Bien, papier à correction, enfin papier
Oui,
à
pour vérifier,
réflexion, quoi.
voilà, le faire comme on peut le vérifier à un pH du sol, mais là, on va plutôt prendre du compost.
Bon,
Avec
donc
ce
c'est
qu'on appelle
assez
le pH,
simple.
avec un pH, identifié. Alors après, ne pas oublier que le cheval, le crottin et compagnie, voilà, c'est des chevaux qui sont sûrement vermifugés. Voilà, c'est pas des, voilà, c'est, il peut y avoir, si la personne veut travailler sur vraiment du bio-bio, je veux dire, voilà, n'oubliez pas qu'il y a quand même, notamment chez les chevaux d'attelage, de course et compagnie, voilà, une action un petit peu plus forte, à mon avis, pour les soigner, quoi.
Bien, on va passer à Charles qui nous dit, j'ai une idée de thème, le comportement des graines, savoir à partir de quand une graine ne lèvera plus, parfois on attend trop avant de
Ouais.
refaire le semis, quelle graine peut rester en terre et le repartir l'année d'après, rappeler les techniques pour voir si les graines sont encore bonnes à planter, les bonnes techniques pour préparer la graine au semis, le persil qu'on fait tremper, est-ce que c'est valable pour toutes les graines, comment les manipuler, les graines de carottes qu'il faut semer clair hein, avec les doigts, c'est pas évident, etc. etc. Bref, je ne dis que parler de graines et de comment les traiter peut être intéressant. Ça, c'est une suggestion de Charles, donc on peut peut-être se le noter, Eric, sur cette idée-là.
Oui,
Et
tout à fait.
puis,
On avait déjà fait un article sur le taux de germination des
sur le taux de
graines.
germination des graines, voilà, c'est ce que j'allais dire, rendez-vous sur notre blog, mais peut-être de compléter aussi cette partie-là. Cela dit, voici ma question. J'ai des fourmis qui arrivent sur mes fèves. Est-ce que c'est systématiquement pour y installer des pucerons et faut-il s'en débarrasser rapidement avant la catastrophe ou cohabiter tant qu'elles ne passent pas à l'action? Et comment s'en débarrasser si elles nous dérangent?
Bah, disons que sur la fève, il y a une problématique, c'est ce qu'on appelle le puceron noir de la fève. Voilà. Donc, il se fait quand il y a les pousses qui sont remplies de pucerons noirs, qui est simplement afféodé à la fève, il faut les pincer pour limiter les pucerons. Voilà. Et s'il n'y a plus
D'accord.
de pucerons, il n'y a plus de fourmis.
Il n'y a plus de fourmis. Donc en gros, le mélange savon noir à pulvériser.
Oui, ça, voilà, par
Oui,
exemple.
mais bon.
Hein, voilà. Alors, c'est vrai que la fourmi, si elle est à proximité et si elle a compris qu'il y a un intérêt particulier, elle va favoriser le déplacement des pucerons, c'est sûr, et protéger les pucerons contre les prédateurs, comme peut l'être la larve de coccinelle, par exemple, ou la chrysope. Mais voilà, après, comme dit, le puceron noir de la fève, c'est quelque chose voilà, de, entre guillemets, normal. Donc, soit on pince, ou soit on fait une pulvérisation avec un savon noir.
Donc, soit on pince, soit on pulvérise. Et y a-t-il des plantes répulsives?
Non.
D'autres techniques?
Bah, disons que quand on dit plante répulsive, on peut utiliser en phytothérapie des macérations de plantes.
Ouais, pour ton fameux bazar olfactif, quoi. C'est ça
Ouais,
l'idée.
bazar, ouais, mais bon, après, quand il y a une vraie attaque, il y a une vraie attaque, quoi.
Ouais.
Faut pas. Ouais. Il faut globalement enfin, si on fait une remarque globale sur le traitement des plantes, et notamment que ce soit les associations avec la présence de plantes particulières qui sont répulsives, ça marche très bien quand il y a une pression forte de l'insecte. Une pression faible de l'insecte,
Faible,
pardon.
faible, oui.
Mais quand il y a une pression forte, par exemple, s'il y a eu des attaques des années précédentes importantes, et c'était un petit peu compliqué pour le jardinier ou la jardinière de pouvoir s'en débarrasser. En principe, l'insecte n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on remette l'année suivante, quoi.
Bon, après, on va juste. Ah, il y a aussi la terre de diatomée, hein. Alors attention
Oui,
aux
voilà,
bronches parce
après, y a...
que
non, mais je veux
voilà.
dire, par exemple, simplement pour jouer sur la répulsion en mettant une plante à côté d'une autre, quoi.
Oui, et puis ce qu'on peut aussi rajouter, Eric, c'est bien sûr la partie répulsion qui marche jusqu'à un certain niveau.
Ah.
Mais il y a une autre technique, c'est comme disait Charles, hein, est-ce qu'il ne faut pas cohabiter tant qu'elle ne passe pas à l'action? C'est pas très grave, les fourmis, moi, je le répète souvent parce qu'on nous demande, nous, par exemple, éthiquement, on ne vend pas de produits anti-fourmis. On pourrait, il y a un marché, clairement, mais enfin, je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui. Alors bon, si elle vous embête sur le plan de travail, c'est autre chose. Là, honnêtement, moi j'ai toujours mis de la menthe fraîche et franchement, elle détournait le chemin et ça a toujours marché. Parce que ça peut arriver, mais ces espèces de boîtes là sécurisées, bon voilà, ça bousille une fourmilière pour rien. Ça, c'est un avis personnel, mais
Oui, bien
c'est pas
sûr.
très grave les fourmis Eric au jardin, non?
Non, bah voilà, après, il faut que, comme dit, tous les acteurs soient importants, il faut éviter les invasions, quoi.
C'est ça.
Bah, c'est tout, hein. Après, tant que
Pour
c'est
les...
pas les fourmis, je veux dire, urticantes qu'on trouve maintenant dans le sud de la France, qui sont arrivées par bateau, enfin, par la fourmi qui a loué un bateau, hein, voilà.
Bien sûr.
Mais là, on est vraiment dans du problématique, je veux dire, importante, parce que le jardinier ou la jardinière souffre. Mais là, après les autres fourmis locales, bah, c'est comme ça. Alors après, on va faire le maximum, on va éviter qu'elles montent, on va trouver des solutions. Mais ce qui est important, c'est ça, c'est hyper motivant, c'est que souvent, ceux qui commencent à faire du jardin nourricier n'ont pas de problème. Parce qu'ils se trouvent souvent dans un milieu de vie, voilà, par exemple, un jardin qui était peut-être très ornemental avant, ils installent une plante et il n'y a pas le prédateur de la carotte, le prédateur du chou. Mais à un moment, ça va s'installer. Donc, si on peut, dès le démarrage, faire les bonnes associations, mettre des plantes qui sont répulsives, toutes les plantes qui vont sentir, hein, pour faire simple, hein, bah, c'est un plus. Mais si on arrive dans une situation, et je vois par exemple un jardin partagé ou un jardin familial ou communal, c'est compliqué. Quand le voisin, il en a plein, vous risquez d'en avoir plein, quoi.
On est d'accord. Merci, nous dit Charles, et bon succès en librairie. Merci en tout cas, Charles. Antoine qui nous dit salut les gars, Antoine de Nantes, j'ai une question cruciale au potager, je laisse toutes les herbes indésirables sur place, composte tous les restes végétaux de la cuisine,
Oui.
broie toutes mes tailles de haies, toute la pelouse, les feuilles,
Ouais.
va sur mes plates-bandes, le seul apport animal que j'ai, c'est le pipi occasionnel dans l'arrosoir, mais vu la surface d'environ 200 mètres carrés, c'est comme faire ça dans un violon.
Ah.
Je n'apporte jamais de fumier, d'autre sorte, notamment pour des raisons logistiques. Alors, pensez-vous qu'à terme, ma terre aura faim? En bref, pensez-vous qu'on peut se passer d'apport animal si on apporte massivement du végétal? Internet colporte des informations contradictoires sur le sujet.
Ouais.
Merci à vous, les gars. Longue vie à votre podcast. En
Bah,
gros, un
disons que
jardin
si on
sans
a un
fumier est un jardin
jardin,
fumier. Un jardin sans fumier est-il un jardin heureux, Eric?
bah disons que si on a un jardin que ornemental, donc c'est-à-dire
Oui.
qu'on mange rien, je vois pas l'intérêt d'apporter autre chose. Voilà.
Par contre, un
Sauf
jardin nourricier ne peut pas être un jardin vegan, c'est ça?
bah, un jardin nourricier, il faut lui apporter à manger ou apporter de grosses quantités de matière organique fraîche, végétale, pour pouvoir compenser ce qu'on sort, quoi.
Bon, donc ça veut dire qu'au final, il faut quand même un peu de matière.
Bah, si on a du fumier, ça va plus vite, quoi.
C'est mieux,
Ouais, si
ouais.
on a de l'animal, ça va plus vite.
Bon, si on a de
C'est
l'animal, ça
clair.
va plus vite.
Et surtout, si on veut vraiment, faut savoir qu'on est à des générations. Des fois, on a des sols où je dirais, bah, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Hein. C'est-à-dire, il y en a qui vont récupérer un jardin qui a un potentiel nourricier hyper important. Pourquoi? Parce qu'il était bien chargé, parce que c'était comme ça, il est bien exposé, enfin il y a plein de choses. Puis il y a un autre, surtout celui qui va récupérer ou il va acheter une maison dans un lotissement, bah là il y aura un petit peu de boulot pour restructurer un sol. Et l'animal fait partie, alors l'animal bien sûr le microscopique comme je dirais, le petit, mais aussi le plus gros jusqu'au chevreuil, voilà c'est important. Donc le but c'est pas avoir des chevreuils. Mais c'est vrai que si on a du fumier, c'est quand même fumier
Mieux.
d'animal, donc entre guillemets, du compost de fumier, c'est quand même pas mal, quoi. C'est même mieux, quoi.
Voilà Antoine, on
Parce
passe
que
et on...
souvent, dans un jardin, on n'a pas de soucis sauf en azote. Et ce qui apporte le plus d'azote,
C'est
c'est
l'animal.
quand même l'animal, hein.
Ou le pipi dans l'arrosoir, mais encore une
Ouais, mais
fois,
bon, voilà, après.
c'est limité des fois et limitant en fonction des situations et aussi de la taille du terrain, nous sommes d'accord. Mon cher Eric, on va terminer cette salve de questions par Cécile du Tarn qui nous dit bonjour et merci pour tous vos bons conseils. Jardinage sur le podcast. L'enregistrement de vendredi dernier était parfait. On vous entendait très bien tous les deux.
Ah ouais.
Alors, oui, ça, c'est pour Michael. D'ailleurs, Michael qui nous écoutait, vous nous a donné quelques éléments. On fait des essais. Hein. Donc, c'est top. Et ben, on a le droit. Voilà. On passe en fait nos voix dans une machine qui fonctionne. On nous lit dans l'oreillette avec une IA. Voilà. Avec une intelligence artificielle. Il paraît que c'est à la mode. Bref, donc ça nous permet d'avoir de belles voix et de gommer un petit peu les aspérités,
D'accord.
puisque nos bureaux sont un peu grands et ils résonnent un peu en cathédrale. Voilà l'explication. Donc merci de l'avoir remarqué, Céline. La question, j'ai acheté un chèvrefeuille, mais au moment de le planter, j'ai constaté que les racines avaient poussé en chignon. J'ai essayé de les défaire, mais impossible. J'ai coupé un peu et j'ai réussi à dénouer quelques-unes, mais c'était pas top. Je les ai plantés, mais je me demande si je ne devrais pas le déterrer et essayer de mieux déchignonner, du coup, hein, dénouer le chignon. Qu'en pensez-vous? Et dans ce cas, comment faire?
Non, mais là, il a déjà fait un effort. Hein. Donc, c'est déjà beaucoup. En sachant que s'il a acheté voilà, dans une boîte sérieuse,
Elle, c'est
la plante
Céline.
n'est pas vieille de 15 ans, quoi. Hein. Donc,
Donc il n'y
c'est
a pas besoin de
normal.
déchignonner, c'est pas grave.
Bah, voilà, elle a un petit peu chignonné. Elle a fait le tour du pot, pour faire simple. Hein.
Hein?
Mais donc, s'il y a eu un petit effort, ça sera très, très bien, quoi.
Donc,
Mais
on laisse
par contre,
tranquille.
voilà, c'est ça. D'où l'intérêt, des fois, de ne pas faire simplement la grandeur du trou qui correspond au conteneur, d'aller un peu plus sur le côté, de manière qu'il y a une facilite, que ça soit facilitant pour les radicelles qui vont démarrer sur les côtés. Et c'est pas
Bien.
pareil dans ce type d'arbustes qu'on appelle les plantes qui font partie de la plante la strate verticale, donc tout ce qui va être les plantes grimpantes. C'est pas pareil pour les sous-arbrisseaux, les arbrisseaux, mais dès qu'on va être dans l'arbuste et surtout dans les arbres, là c'est un peu différent parce que justement dans au niveau de la pousse, c'est des plantes qui demandent un fort enracinement, alors que les autres, bah, ils vont rester dans un milieu confiné quand même.
Rendez-vous sur notre site, Eric,
Ouais.
monjardinbio.com pour évidemment retrouver tous les conseils et puis nous écrire pour le podcast contact@monjardinbio.com. Envoyez-nous ça directement. On va passer au dossier de la semaine consacré aux céleris rares,
Ouais.
mal aimés, mal connus peut-être, mais en tout cas toi
Oui,
t'es
bon alors
fan.
après il est bien aimé parce que bon que ça soit le céleri rave ou le céleri qu'on appelle boule aussi ou le céleri branche, c'est quand même un légume qui est quand même très apprécié dans de nombreuses régions de France et
Et puis on le
voire
voit déjà découpé dans les barquettes en plastique au supermarché
ouais
aussi
donc
pour la
ouais
soupe.
voilà c'est quand même voilà tout ce qui où ça c'est vraiment un légume qui est apprécié mais bon est-ce qu'il est aussi apprécié par le jardinier ou la jardinière qui veut le planter à partir du semis? Voilà, donc c'est ça
Alors
qui est important.
justement.
Donc, ce qui est important, c'est de commencer toujours dans une terrine, en terrine, hein, comme on va le faire sur le poireau. Hein. Une terrine, une jardinière, ça marche très bien, parce qu'on en a. L'objectif, ce n'est pas d'avoir 400 céleris et boules. Hein. Si déjà on en a un par semaine pour l'ensemble de la période hivernale, hein, de l'automne au printemps, c'est bien suffisant. Et donc, l'objectif, c'est de faire. Pourquoi une terrine ou une jardinière? Parce que la hauteur est importante. Alors, il faut surtout pas se fier par rapport je veux dire, aux mini-mottes qu'on a chez les professionnels. On voit les trucs qui font 4-5 cm. On dit, bon, on a besoin de que 4-5 cm de terre. Eux, c'est différent. C'est fait dans un substrat qui correspond complètement au céleri, enfin, notamment à une plante légumière. Donc, c'est pas pareil peut-être pour vous. Donc là, il faut prendre un terreau de semis. Hein, c'est quand même intéressant. Même si le fond de la jardinière ou de la terrine peut être un terreau de base, je dirais, un terreau horticole ou un terreau universel. Mais les premiers centimètres, il faut quand même que ce soit un terreau de semis de qualité. Donc l'objectif, c'est de monter jusqu'à peu près 10 centimètres et puis après de le tapoter, voilà, avec une petite planche pour faire ce qu'on appelle le lit de semence. Et après, vous semez, je dirais, très très clair les graines parce que vous allez voir, c'est pas très gros. Donc des fois, c'est intéressant de le mélanger avec du sable. Comme ça, on ne voit pas les graines, mais on voit plutôt le sable. Donc ça permet de bien mélanger l'ensemble sur cette partie. Et ensuite, on recouvre d'à peine de terreau, parce que les graines sont tellement petites qu'on va le recouvrir à peine de terreau de semis. Et puis après, on retapote avec la petite baguette en bois, là, et puis après, on arrose.
Tout simplement.
Voilà, donc là, c'est très simple.
On fait ça quand, Eric, à partir de quand là? Fin mars, début
Voilà,
avril?
c'est en ce moment.
En ce moment, ok.
Voilà. Là, c'est pareil, hein, comme on va se retrouver sur le céleri, qui va être comme le persil, qui va être comme les carottes.
C'est lent.
On va attendre ces 2 à 3 semaines pour la germination qui peut paraître infernale. Parce qu'on dit, ça lève pas, je suis pas prêt de manger du céleri. Et c'est vrai, parce que le céleri, ça se mange en fin d'année. Donc, il faut attendre. Et après, on va vite apparaître, parce qu'une fois que ça a démarré, ça démarre fortement. On va avoir vite apparaître des petites pousses avec 2 feuilles. Voilà. Et là, pour faire la boule, ce qu'on appelle, pour favoriser la boule, il faut le repiquer. Une première fois dans des godets individuels, voilà. Donc là, il faut pas s'être engueulé avec son compagnon ou sa compagne. Donc il faut être tranquille, il faut pas avoir payé les impôts. Donc il faut être très tranquille
Tranquille.
pour le faire parce que c'est la tomate c'est fragile, mais le céleri aussi hein, pour le repiquage. Ensuite, bah voilà, on le repique tranquillement et on peut le faire une deuxième fois, c'est mieux. Et à chaque fois, il faut couper un petit peu les extrémités des racines pour faire ce qu'on appelle la fameuse boule. Parce que si vous avez remarqué, quand vous avez acheté du céleri, en fin de compte, il n'y a pas une racine. C'est une boule avec plein de petites racines autour.
Tout simplement.
Voilà. Et puis mi-mai, jusqu'à début juin, là, c'est là que vous allez pouvoir le repiquer en pleine terre.
Voilà, tout
Tous les
simplement. Donc,
30-50 cm en tout sens. En tout sens.
Les céleris raves, facile. Alors,
ouais.
Non, faut être patient, pardon, pour que ça vienne. Par contre, une fois que c'est planté.
Faut être méticuleux, voilà. Alors après, il y a plein de jardiniers qui vont me dire, ouais, j'avais un céleri rave, il s'est ressemé tout seul, c'était tout simple. De toute façon, il faut se dire que tout ce qui va se ressemer tout seul dans votre jardin
c'est
aura beaucoup plus de facilité que vous. Voilà. Vous êtes le sauvage, le naturel, je laisse faire, des fois, beaucoup plus efficace que le jardinier et la jardinière. Amateur ou amatrice, on est bien d'accord, le professionnel, il ne peut pas se jouer là-dessus. D'ailleurs, c'est pour ça même que beaucoup de professionnels achètent des mini-mottes ou du plant pour le céleri et ne le font pas eux-mêmes. Hein.
Il y a un point important quand on achète la mini-motte est très très compacte. Il faut penser aussi là à déchignonner un minimum.
Oui, un
ou
petit
en tout
peu,
cas
et puis surtout bien. Et comme on fait une plante en conteneur, si aujourd'hui on plante des plantes en conteneur, il faut vraiment les mettre dans l'eau, quoi. Hein.
Ouais. Pour justement que la motte soit la plus souple possible. Eric,
ouais.
Est-ce qu'on a fait le tour du céleri rave?
Oui, alors ce qui est important, c'est que quand on le repiquera, de toute façon, on va en reparler. Des fois, on dit, oui, mais mettre des céleris, ça va prendre beaucoup de place, ou les 30-50 cm, mais n'oubliez pas qu'il y a un espace qu'on pourra planter des salades entre par la suite, donc c'est vraiment super. Et puis là, c'est pour ceux qui commencent à le faire, bah, vous pouvez faire un rang de céleri, un rang de poireaux, un rang de carottes, voilà. Le fait de multiplier ces légumes, je dirais, d'associations sympathiques, parce qu'ils donnent des odeurs différentes qui vont foutre un bazar olfactif par rapport aux bestioles, c'est quand même sympa. Voilà.
En tout cas, et en résumé, tous à vos céleris, céleri boule, céleri branche, c'est le même combat, Eric.
Ouais. Ouais, encore plus simple, parce que là, on n'a pas besoin de repiquer.
D'accord. Donc, encore plus simple, sans aucun souci. Eric, est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir, notamment en termes de fertilisation et en termes de repiquage?
Fertilisation, il faut savoir que si on veut avoir une grosse boule, il faut donner beaucoup à manger et beaucoup à boire.
D'accord, à manger, on revient sur notre fameuse problématique autour du fameux fumier animal, pour le coup.
Oui, voilà, par exemple... Un compost, qui peut être un mélange qui peut être du compost de fumier, pour le céleri, c'est quand même pas mal, quoi.
Bon, voilà.
Et Eric, par contre, les jardiniers et les jardinières n'auront jamais les aussi gros céleri qu'on peut trouver dans le commerce, où là, il y a vraiment une fertilisation qui est adéquate et qui est des fois même un peu excessive.
Quand même une grosse céleri une année. Je ne les ai pas chaque année, mais...
Enfin, quand j'ai le gros céleri, pour avoir des très, très gros céleri comme...
Oui, pas des trucs. Oui.
Là, tu as un ballon de hande.
Pas un crâne, quoi, ou un ballon de...
C'est ça, si on est capable de tenir le céleri à deux mains, même si les mains se rassemblent, c'est pas mal. Hein,
mais après, c'est trop.
En sachant qu'il est beaucoup plus concentré, hein, en plus.
On est d'accord. Eric, faux dicton ?
Bah oui, celui-là... on va peut-être me pardonner, mais j'espère... qui regarde un céleri boule ne se fait pas reprendre par son compagnon ou sa compagne.
Je viens de comprendre, en fait. Je viens de comprendre. Ok, si vous l'avez, écrivez-nous.
Ouais, voilà.
Voilà. Bon, on va te laisser. Allez, dans le prochain bouquin, on mettra tes citations et tes faux dictons. Trois choses essentielles. Rendez-vous sur Instagram. Maxime vous met de précieux conseils en animation. C'est vachement bien fait. Partagez, commentez, mettez-nous des likes. Ça fait toujours plaisir pour tout le travail qui est fait. Deuxième chose, rejoignez-nous sur la newsletter tous les vendredis. Abonnez-vous, c'est gratuit sur monjardinbio.com. Troisième chose, contact@monjardinbio.com pour vos questions podcast, évidemment. Et puis quatrième chose, on ne l'a pas oublié, on s'aime fort le livre. 16,90€ disponible dans toutes les bonnes librairies. Et sur notre site aussi, Eric, avant de refermer ce podcast, le mot de la fin.
Le mot de la fin, ce qui est important, c'est ne vous faites pas trop avoir sur l'avance de la nature là. Hein. Gardez votre rythme parce que on peut avoir des soubresauts qui fait que vous serez forcément perdant quoi. Hein.
Voilà. Donc
pensez aux haricots au mois de mai, pensez aux tomates, ouais. Mais pas, c'est pas la peine de voir avant, sauf bien sûr si vous avez des espaces couverts avec un tunnel et compagnie, mais si vous êtes en pleine terre, il n'y a rien d'autre, gardez le rythme.
Bon, gardez le rythme. En tout cas, toi aussi, garde le rythme. Rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr, même heure, même endroit. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous noter, à partager ce podcast, à faire parler de nous, ça nous fait très plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Rendez-vous la semaine prochaine, Eric. Salut, salut.